Voilà, donc bonjour à tous. Alors moi je ne suis pas neurologue, je suis biologiste, donc je vais vous faire une présentation extrêmement fondamentaliste, où je vais faire un peu une revue générale des mécanismes tels qu'on les connaît à l'heure actuelle. Alors donc les circuits de la douleur, vous les connaissez, ce sont donc ce qui va nous intéresser, c'est les mécanismes donc qui vont se dérouler le long de ces voies de la douleur. Donc vous savez que le message douloureux est transmis par l'intermédiaire des fibres nociceptives, des fibres C ou A delta, dont les corps cellulaires se trouvent dans les ganglions spinaux. Et puis ces fibres font relais dans la corne dorsale de la moelle épinière ici, avant de projeter vers le cerveau, là où est élaborée la perception consciente de la douleur. Donc ces mécanismes physiopathologiques, on va les étudier à différents niveaux, que ce soit au niveau des nocicepteurs, c'est-à-dire des fibres ici douloureuses, au niveau du relais de la moelle épinière, et c'est essentiellement de ça dont je vous parlerai, et puis également au niveau de l'intégration dans le cerveau. Alors, ces mécanismes douloureux se traduisent par des symptômes qu'on va qualifier d'allodénie ou d'hyperalgie. Donc pour résumer, l'hyperalgie, c'est un ressenti exagéré de douleur après un stimulus nociceptif. L'allodénie, c'est une perception douloureuse en réponse à un stimulus qui normalement n'est pas nociceptif. Donc pour étudier ces voies de la douleur et ces mécanismes, on va avoir recours en sciences fondamentales à des modèles animaux pour être capable d'intervenir sur ces circuits, sur ces cellules, être capable de perturber les mécanismes. On va donc utiliser des modèles animaux et on va avoir besoin de mesurer sur ces modèles animaux des paramètres qui permettent d'évaluer l'hyperalgie ou l'allodénie. Alors juste une diapositive pour vous montrer quelque chose auquel vous n'êtes évidemment, je suppose, pas habitué, mais qui sont ces modèles animaux. Et puis pour dire, je ne vais pas détailler très précisément cette diapositive, mais je veux dire que, évidemment, ces modèles animaux sont très imparfaits, ça ne ressemble pas à des cas cliniques, donc c'est quand même assez loin de la réalité à laquelle vous pouvez être confronté, mais enfin c'est le seul outil dont on dispose pour étudier les mécanismes, et ensuite, eh bien, c'est aux cliniciens, qui vous parleront après, d'évaluer la pertinence des mécanismes que l'on aborde. Alors vous voyez, ces modèles animaux de douleur neuropathique, vous avez les trois des modèles les plus classiques qui sont représentés ici. On va travailler au niveau du nerf sciatique, donc on est dans une session qui parle de douleur des membres inférieurs, ça tombe bien, et on va léser ce nerf sciatique de différentes manières, soit on va ligaturer de manière serrée une partie du nerf sciatique, on opère l'animal et puis on pique à l'intérieur du nerf sciatique et on serre ce qu'on a isolé, soit on va faire une constriction lâche, on va faire des nœuds pas très serrés autour du nerf, soit on va ligaturer de manière serrée deux des branches du nerf sciatique, par exemple ici les branches L5 et L6. Alors après, on va évaluer le comportement de ces animaux par différents tests. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces tests. Je vais juste insister sur un point. Vous voyez ici en noir, on mesure le côté lésé, hein, la réaction du côté lésé, la sensibilité mécanique ou thermique au chaud et au froid du côté lésé. Et vous voyez que ces trois modèles ne sont pas équivalents. Vous voyez par exemple le modèle qui est représenté ici par des triangles noirs. Eh bien, il montre une sensibilité douloureuse qui est plus faible que les deux autres modèles, pour ce qui est de la sensibilité mécanique. Par contre, dans la sensibilité thermique, c'est le seul qui montre une réelle augmentation de la douleur. Donc, le seul message que je veux faire passer ici, c'est que on utilise des modèles animaux qui sont assez éloignés de la réalité clinique, mais qui sont les seuls outils dont on dispose. Et ces modèles ne sont pas tous identiques, c'est-à-dire qu'il faut savoir quels sont les paramètres qu'on étudie précisément sur ces modèles pour pouvoir en tirer des conclusions. Alors, si je rentre dans le détail des mécanismes, voilà un exemple, enfin une série d'exemples de plasticité fonctionnelle en conditions douloureuses. Donc comment le système nerveux, en particulier ici dans la moelle épinière, est modifié chez ces modèles animaux de douleur dont je viens de vous parler. Alors en fait, vous voyez comment est organisé ce schéma. On va aller du niveau le plus moléculaire au niveau le plus intégré. Alors le plus intégré pour nous ici, ça reste des réseaux de neurones de la moelle épinière. C'est pas très intégré quand même, hein, si on compare à un patient. Je vais essayer de vous décrire à ces différents niveaux, moléculaires, synaptiques, cellulaires, et puis au niveau du réseau, je vais essayer de vous décrire les différents mécanismes qui sont présentés ici de manière évidemment très rapide, hein, pour donner un aperçu. Donc, premier exemple, au niveau moléculaire, différentes études montrent des modifications de canaux ioniques. Alors, les canaux ioniques, vous savez qu'ils vont définir l'excitabilité des neurones. Et quand je parle de modification de canaux ioniques, j'englobe en fait un ensemble de modifications. Il peut s'agir de modifications transcriptionnelles, comme ça vous est montré ici, c'est-à-dire un changement de synthèse, hein, tout simplement plus de canaux ou moins de canaux. Il peut s'agir également de ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles. Par exemple, une phosphorylation de ces canaux qui va en modifier l'activité, qui va modifier le seuil d'ouverture, par exemple, de ces canaux, donc les rendre plus réactifs à un stimulus. Alors, sur l'exemple ici que l'on vous présente ici, on vous donne l'exemple d'un canal perméable au calcium qui va s'ouvrir pour des températures, par exemple, de l'ordre de 42 degrés. C'est par exemple les récepteurs à la chaleur. Et donc, pour cette température de 42 degrés, qui est la température à partir de laquelle qui correspond au seuil de douleur, en fait, de douleur thermique, on voit que ce canal va s'ouvrir, on voit un courant qui apparaît. Mais dans certains cas, l'inflammation, c'est ce qui est donné sur cette image, mais également dans les modèles de douleur neuropathique, on va avoir différentes modifications, notamment des phosphorylations par l'ensemble, vous voyez, de ces protéines, qui sont des protéines kinases essentiellement, des modifications qui vont rendre ce canal plus perméable au calcium. Vous voyez une entrée augmentée de calcium. Et là, vous voyez que le canal va s'ouvrir, mais au lieu de s'ouvrir à 42 degrés, il va s'ouvrir pour des températures plus faibles, à 37 degrés, ce qui représente finalement une sensibilisation à la chaleur du sujet. Donc voilà un exemple de modification moléculaire au niveau de la synapse. Alors vous savez que la transmission du message nerveux va dépendre de l'efficacité de la synapse. Cette synapse, elle peut être plus active, on peut la moduler de différentes manières. Vous avez ici la synapse au repos chez un sujet sain, on va dire, ou chez un modèle animal sain. Et puis vous avez deux manières d'en modifier l'efficacité, de telle manière que cette synapse deviennent de plus en plus fortes, enfin que la force de la synapse, vous voyez, augmente. On peut même passer de synapses silencieuses à des synapses qui vont être dont l'efficacité va être augmentée. Alors ces deux manières d'augmenter la force de la synapse, eh bien c'est soit d'augmenter la libération de neurotransmetteurs, c'est-à-dire d'agir au niveau présynaptique, soit au contraire d'augmenter la capacité qu'a le neurone postsynaptique de répondre au message. Par exemple, en augmentant le nombre de récepteurs ou en rendant ces récepteurs plus actifs, on revient au cas précédent. Donc dans les deux cas, en tout cas, on aboutit à une potentialisation de la synapse et à une efficacité accrue de la transmission, ce qui est, même si on parle d'efficacité accrue, ce n'est pas forcément bénéfique dans le cas de la douleur, parce que ça veut dire que le message va se transmettre de manière exagérée. Ensuite, au niveau cellulaire ici, on a différents phénomènes qui vous sont décrits ici, qui vont toucher l'ensemble de la cellule et non pas seulement un canal ou même une synapse, mais la totalité de la cellule, et qui vont se traduire par une augmentation, par une sensibilisation centrale, hein, une sensibilisation ici au niveau de la moelle épinière, dans ce qui est décrit ici. Alors, ces phénomènes de sensibilisation peuvent être liés à une augmentation de l'excitabilité de la cellule. Par exemple, vous voyez ici que pour un même stimulus, avant et après le modèle de douleur, eh bien on va avoir une augmentation de l'excitabilité de la cellule. Ça peut être également une augmentation de l'activité spontanée, des décharges ectopiques par exemple, qui vont stimuler le système nociceptif alors même qu'il n'y a pas de stimulus appliqué. Et puis une caractéristique de cette sensibilisation centrale, c'est l'expansion des champs récepteurs. Vous voyez ici sur la patte arrière d'un modèle de rat, vous voyez un champ récepteur qui est très largement un champ récepteur excitateur qui est très largement augmenté après des lésions nerveuses ou chez des modèles d'inflammation. Donc ce sont des augmentations de l'excitabilité, augmentation de l'activité spontanée, augmentation de l'étendue des champs récepteurs, ce sont vraiment des caractéristiques de la sensibilisation centrale. Et puis au niveau du réseau, Alors, de manière très simple, vous voyez ici qu'on peut tout simplement aboutir à un recrutement plus important de neurones. Au lieu que le stimulus touche une population restreinte de neurones dans la corne dorsale, eh bien cette population peut augmenter et peut même englober une population neuronale du côté contralatéral, du côté opposé au côté qui est stimulé. Alors voilà pour ces différents mécanismes de plasticité fonctionnelle. Vous comprenez bien que c'est un aperçu un peu rapide. Il n'y a pas que la plasticité fonctionnelle, il y a également des modèles de des phénomènes de plasticité structurale qui apparaissent en conditions douloureuses, même s'ils sont finalement assez mal décrits encore dans les modèles animaux. Ce qui vous est représenté là, c'est plus d'ailleurs des hypothèses que des choses définitivement acquises. Alors, plasticité structurale, ça peut être une augmentation des contacts, comme vous le voyez ici, au niveau d'une terminaison. Ça peut être également une modification de l'arborisation axonale ou dendritique, qui peut être soit augmentée, ce qu'on vous dit ici, dans des modèles de cancer, de douleurs cancéreuses, par exemple. Donc, on a une augmentation de cette arborisation axonale, ou bien on peut avoir à l'inverse une dénervation, c'est-à-dire une perte de ces contacts, qui va, les deux phénomènes, hein, soit l'augmentation de l'arborisation, soit la dénervation, peuvent se traduire par des perturbations de la sensibilité douloureuse et une augmentation de ces phénomènes douloureux. Donc, perturbation des contacts synaptiques, perturbation de la connectivité, mais perturbation également du nombre de cellules, puisque vous voyez que dans ce dessin, on vous a représenté une perte de neurones, même si vous voyez, il y a un point d'interrogation, c'est pas quelque chose de définitivement acquis, perte de neurones en bleu foncé, et à l'inverse, une augmentation des cellules gliales, dont on a longtemps cru qu'elles n'étaient que des cellules de soutien qui ne servaient pas à grand chose, mais dont on sait maintenant qu'elles participent de manière très active à la transmission neuronale, et dans plusieurs modèles de douleur, on constate une activation de ces cellules gliales, soit des astrocytes, soit de la microglie. Alors, si on rentre encore un peu plus dans le détail, mais je ne vais pas présenter toutes les données qui sont sur cette image qui est finalement assez riche. Donc si on rentre un peu plus dans le détail de ces mécanismes de sensibilisation au niveau de la moelle épinière, eh bien, en fait, tous ces mécanismes vont évidemment intervenir et interagir les uns avec les autres. Alors, vous voyez qu'ici, on vous a représenté quatre grands ensembles de mécanismes qui se mettent en place dans un état pathologique. Une augmentation de la libération de neurotransmetteurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Une modification du nombre de récepteurs. Vous voyez que ce récepteur qui est représenté en vert, qui est un récepteur excitateur, sur le dessin, on passe de un récepteur à trois. Enfin, c'est un dessin, bien sûr, mais donc pour vous montrer cette augmentation. Donc augmentation du neurotransmetteur, augmentation de l'efficacité de la réception de ce neurotransmetteur, le tout aboutit à une augmentation de l'excitabilité. Et puis, cette augmentation de l'excitabilité va induire des phénomènes dont je ne vous ai pas parlé avant, qui sont des phénomènes de régulation de l'activité génique. C'est-à-dire que stimuler de manière exagérée un neurone, c'est pas neutre, ça ne se traduit pas juste par une transmission accrue, mais ça se traduit également par des perturbations à long terme de l'état de ce neurone, notamment à travers des modifications de transcription génique. Donc ces modifications de transcription sont dues à des facteurs de transcription, qui vous sont décrits ici, qui vont produire l'activation de certains gènes, la synthèse de protéines de différentes natures, ça peut être des récepteurs, ça peut être des protéines de signalisation, mais qui en tout cas vont modifier la physiologie du neurone et vont le rendre, dans ce qui nous intéresse ici, plus réactif, plus actif en réponse à un stimulus. Alors cette activité des neurones, elle est également modifiée par des substances libérées par les cellules gliales, soit la microglie, soit les astrocytes. Et puis, elle est également, cette activité des neurones de projection ici, elle est également perturbée par une modification, une altération des contrôles. En règle générale, en situation normale plutôt, vous avez des interneurones qui exercent différents contrôles sur ces neurones de projection et qui vont, en particulier, qui peuvent en bloquer l'activation. Vous voyez ici, ce qu'on vous représente, c'est des interneurones inhibiteurs. Eh bien, dans les modèles de douleur, on peut aboutir à par différents mécanismes, à une suppression de ces inhibitions qui vous est représentée ici. Alors justement, cette suppression d'inhibition, c'est quelque chose sur lequel nous, au laboratoire, on travaille plus précisément. Et on...
Merci bien. Oui, donc je vais vous parler de l'aspect central des douleurs neuropathiques. Loindal Lemasson vous parlera des douleurs neuropathiques plus périphériques. Donc les douleurs neuropathiques, en général, c'est les douleurs liées à l'atteinte du système nerveux. On les appelle neurogènes, neuropathiques, neurologiques. Et quand elles sont centrales, c'est celles qui sont liées donc à l'atteinte de la moelle ou du cerveau, soit sur la voie du fait de lésions sur la voie de la nociception, que nous a montré Marc Landry, soit un défaut d'inhibition, de déafférentation au niveau de ce système nerveux central. Alors d'abord un chiffre épidémiologique pour resituer un peu le problème général des douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, en fait, c'est quelque chose de relativement fréquent. Il y a eu deux études qui ont été faites récemment en France et en Grande-Bretagne en utilisant des questionnaires qui ont montré que des douleurs qui ressemblent en tout cas cliniquement à des douleurs neuropathiques sont rapportées par 7 à 8% de la population. C'était des études de sondage. Il y a deux ans, il y a eu une enquête dans les consultations de la douleur qui a montré que près de 30% des consultations dans les centres de douleurs chroniques étaient liées à des douleurs neuropathiques. Donc ce sont des douleurs fréquentes, et là sur le petit schéma qu'on voit sur la diapositive, c'est une étude en Grande-Bretagne qui a comparé la sévérité de ces douleurs neuropathiques avec d'autres douleurs chroniques, et la sévérité moyenne était plus importante. Donc c'est des douleurs fréquentes, ce sont des douleurs fréquentes et sévères. Alors, puisque je parle le premier, je vais, sur ces aspects cliniques, je vais commencer par donner quelques caractéristiques générales de ces douleurs. Comment reconnaître ces douleurs neuropathiques? En fait, les douleurs neuropathiques sont faciles à reconnaître, car elles ont des caractéristiques assez précises. La première caractéristique, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une lésion tissulaire. On n'est pas dans le domaine de la douleur nociceptive, où on a une lésion d'un tissu qui va stimuler un système nerveux normal, qui va transmettre une information douloureuse. Là, c'est le système nerveux qui est pathologique, et il suffit qu'il y ait eu une lésion à niveau de ce système nerveux pour que le patient conserve des douleurs qu'il peut conserver éventuellement toute sa vie, mais parfois ça s'arrête. Donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait une maladie évolutive. Il y a parfois des maladies neurologiques évolutives qui peuvent donner des douleurs, mais par exemple, le traumatisme d'un nerf, il suffit que le nerf ait été traumatisé une fois et les douleurs peuvent persister. La deuxième caractéristique, et qui est souvent à l'origine d'errances diagnostiques, c'est la notion d'intervalle libre. C'est-à-dire qu'entre le moment où le système nerveux est lésé et le moment où la douleur survient, il peut se passer pas mal de temps. Ça peut être quelques semaines. Le premier syndrome clinique où ça a été démontré, ce sont les douleurs centrales, justement, ce qu'on appelle le syndrome thalamique, les douleurs après accident vasculaire cérébral. Et donc, au début du XXe siècle, Dejerine et Roussy, qui ont décrit ce tableau, ont décrit que les douleurs apparaissaient plusieurs mois après l'accident vasculaire cérébral. Ben, c'est vrai pour toutes les douleurs neuropathiques. On voit par exemple des gens qui développent des douleurs du membre fantôme plusieurs années après une amputation. Donc ça, c'est important, notamment pour, je ne voudrais pas empiéter sur les douleurs périphériques, mais par exemple les douleurs post-chirurgicales, il peut y avoir plusieurs mois entre une lésion d'un nerf périphérique lors d'une intervention chirurgicale et la douleur qui se développe. Et donc, il faut pouvoir rattacher cette douleur à la lésion en question. L'autre caractéristique qui est bien sûr essentielle, c'est que la douleur siège dans un territoire neurologique. Il y en a partout des territoires neurologiques, mais quand ils sont bien systématisés, quand vous avez une douleur centrale encéphalique, ben vous avez une douleur qui peut toucher l'hémichord, ce qui est très caractéristique d'un territoire neurologique particulier. Ces douleurs associent une composante provoquée et spontané. Alors Marc Landry vous a parlé un peu des douleurs provoquées avec ce qu'on appelle l'allodynie et l'hyperalgie. L'allodynie, donc, comme ça vous a été dit, c'est une douleur qui est provoquée par une stimulation qui normalement ne fait pas mal. Le toucher, l'effleurement, l'exemple qu'on connaît le plus spectaculaire, c'est les douleurs du zona avec cette douleur au simple contact de la chemise. Et cette allodynie, elle peut être mécanique ou thermique. Et l'hyperalgésie, ben, c'est une douleur plus forte qu'elle ne devrait l'être quand on a une stimulation douloureuse. Alors c'est à la fois un signe d'examen, mais c'est également des symptômes au quotidien pour les patients. Les patients qui ont une allodynie au niveau d'une partie du corps, ben, c'est une source de handicap importante parce qu'ils ne peuvent plus du tout utiliser cette partie du corps. Par exemple, si on a une allodynie sous le pied, c'est très difficile de marcher. Et puis, il y a une douleur spontanée qui comprend deux parties, une douleur continue, qui est très caractéristique, et une douleur paroxystique. Alors, ces douleurs neuropathiques, on les reconnaît facilement, elles sont toujours pareilles. C'est des brûlures continues. Alors, la brûlure, c'est pas spécifique, on peut avoir des brûlures dans d'autres douleurs, mais le fait d'avoir une brûlure qui dure longtemps dans un territoire neurologique, c'est très évocateur. Deuxième dimension, les paroxysmes, qui peuvent être électriques, qui peuvent être des coups d'aiguille, des coups de poignard, etc. On peut avoir aussi une composante électrique plus continue. Donc brûlure, électricité, paroxysme, ça c'est ça qui doit faire penser à une douleur neuropathique. Donc associée à ces éléments des douleurs provoquées. Et à l'allodynie et à l'hyperalgésie dont j'ai déjà parlé, on peut associer l'hyperpathie, qui est le premier des symptômes qui avait été décrit dans ces douleurs provoquées, justement par Dejerine, et qu'on voit notamment dans ces syndromes de douleurs post-AVC. Vous prenez une aiguille, vous piquez de façon répétitive dans une zone où le patient sent plutôt moins la douleur. Au début, il vous dit non, je sens pas très bien l'aiguille. Et puis tout d'un coup, apparaît une douleur explosive. C'est ça l'hyperpathie. C'est une douleur vraiment explosive dans un territoire plutôt hypoesthésique. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tout à fait dans les douleurs centrales. Bon, bien entendu, ensuite, il faut faire un examen neurologique. Si on a des anomalies à l'examen neurologique, ça oriente d'autant plus vers une douleur neuropathique. Le plus souvent, c'est un déficit de la sensibilité thermique et nociceptive. La sensibilité nociceptive, c'est pas toujours facile de trouver. Thermique, c'est beaucoup plus sensible. Et puis, il peut y avoir des troubles moteurs, des troubles réflexes, tout ceci dans le territoire concerné, suivant la sévérité de la lésion. Alors, c'est donc assez facile de repérer ces douleurs, mais en pratique, on se rend compte qu'elles sont souvent méconnues. Et c'est pour ça qu'on a développé, il y a quelques années, un questionnaire, qui s'appelle le questionnaire DN4, car il comprend 4 questions, qui est un outil qu'on peut utiliser au quotidien pour repérer les douleurs. Alors, c'est les douleurs neuropathiques. C'est un outil qui s'applique aux douleurs régionales, localisées. Ça marche pas pour les douleurs diffuses. La première question, la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes? Brûlure, froid douloureux, décharge électrique. Donc, c'est des sensations, c'est des types de douleurs qui sont très spécifiques de la douleur neuropathique. Deuxième question, dans la même région, y a-t-il des fourmillements, des picotements, un engourdissement? Des démangeaisons, ce ne sont pas des vraies démangeaisons, c'est en fait le patient qui le décrit comme tel, mais ça correspond à ses paresthésies. Donc la présence de paresthésie associée, ça c'est un élément qui est également un signe important. Donc ça, les deux premières questions sont des questions d'interrogatoire. Les deux dernières, c'est des questions d'examen. Est-ce qu'il y a dans le territoire une hypoesthésie, au tact ou à la piqûre? Et enfin, dernière question, la douleur est-elle provoquée ou augmentée par le frottement? C'est l'allodynie. Si on a une réponse positive à un des items de 3 des 4 questions, c'est très fortement probable qu'il s'agit d'une douleur neuropathique. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser de façon très simple en pratique quotidienne, qui peut permettre de repérer ces douleurs neuropathiques. Alors, dans la deuxième partie et dernière partie de mon exposé, je vais vous citer quelques grands exemples de douleurs centrales. Donc, je vous ai déjà parlé du syndrome thalamide, décrit au début du XXe siècle, qui sont des douleurs liées à la lésion du thalamus. Mais en fait, on peut avoir des douleurs après AVC en dehors de cette zone, notamment les voies entre le thalamus et le cortex, et également au niveau du tronc cérébral. Donc, les douleurs après AVC, c'est une source fréquente de douleurs. Il y a une étude épidémiologique qui a été faite en Scandinavie qui a montré que 4 mois après un AVC, 32% des patients avaient des douleurs. Alors, toutes n'étaient pas liées à des douleurs neuropathiques. Ils peuvent avoir une spasticité, ils peuvent avoir des problèmes de syndrome épaule-main, mais ces douleurs neuropathiques contribuent à ces douleurs chroniques. Et il y en avait encore 21% à 16 mois. Donc les douleurs après AVC, c'est un problème relativement fréquent et parfois complexe. Les lésions peuvent être au niveau du thalamus. Donc à la phase aiguë, le patient a surtout un trouble de la sensibilité. Si la lésion déborde un peu le thalamus, il y a une petite hémiplégie, mais qui est modérée, et il récupère, et quelques semaines à quelques mois plus tard, il va développer des douleurs typiques, neuropathiques et une hyperpathie. Le plus souvent, il s'agit d'un hématome lié à l'hypertension artérielle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, les douleurs sont caractéristiques, mais elles ne siègent pas toujours dans la totalité de l'hémichore. Si on regarde, là, c'est un petit hématome, donc, et là, une lésion ischémique. Mais si on, et là, un AVC un petit peu plus important. Si on regarde cette série de patients qui avait été rapportée il y a quelques années par nos collègues de Saint-Étienne, eh bien, c'est des patients qui avaient tous une lésion du thalamus. Et vous voyez, le territoire de la douleur est en blanc et l'hypoesthésie était en grisé. Donc le territoire de la douleur, chez ces patients, était limité à une partie du territoire. Donc là, ils avaient, par exemple, ce patient avait une hypoesthésie de l'hémichore, mais il n'avait la douleur qu'au niveau du pied et de la jambe. Donc il ne faut pas s'attendre que tous les patients qui ont eu ce type de problème aient une douleur de l'hémichore. Donc chez quelqu'un qui a fait un petit AVC, une lacune ou un hématome thalamique quelques mois ou quelques années avant, l'apparition de brûlures au niveau d'un membre inférieur peut être une séquelle de cet hématome, enfin de cette lésion. Autre localisation importante à connaître, c'est le tronc cérébral. Les gens qui font, par exemple, le syndrome de Wallenberg, qui, vous savez, associe des signes du tronc cérébral et des signes sensitifs de l'autre côté, il n'y a pas d'hémiplégie, ben, ils peuvent avoir des douleurs à la fois dans l'hémichore, où il y a les troubles sensitifs, jusqu'au cou, là où il y a une anesthésie à la douleur et à la température, mais également des douleurs au niveau du territoire du nerf trijumeau, du côté de la lésion. Donc si on prend là à nouveau une série de patients, vous voyez, c'est des patients qui avaient une lésion dans le bulbe, le syndrome de Wallenberg. Donc sur la première ligne, vous avez les territoires sensitifs, là où il y a une hypoesthésie. Donc vous voyez ici, sous la flèche, un cas typique avec une hypoesthésie de l'hémichore jusqu'au cou et de l'hémiphase de l'autre côté. Et quand on regarde la douleur chez ce patient, ben, ça correspond. Mais il y a des patients comme celui-là à côté, il a une hypoesthésie diffuse, mais il a une douleur limitée au membre inférieur. Et là, vous avez l'allodynie. Donc chez le patient qu'on avait pris en premier, l'allodynie était dans le même territoire. Mais chez ce patient qui avait une douleur à la jambe spontanée, ben, il avait une allodynie beaucoup plus étendue. Donc on peut avoir une dissociation entre le symptôme déficitaire, sensitif, la douleur spontanée et l'allodynie. Donc ça, il faut savoir que le Wallenberg, plusieurs mois après, plusieurs semaines ou plusieurs mois après la récupération du déficit, ben, peuvent apparaître des douleurs neuropathiques, parfois très sévères, et difficiles à soigner. Donc un exemple de lésion du tronc cérébral. Donc on peut avoir d'autres douleurs centrales par des lésions encéphalites, je vais passer très vite parce que c'est beaucoup plus rare, il y a des tumeurs, des abcès, etc. Donc, mais c'est la première cause, ce sont les douleurs après AVC. Là, un exemple d'un patient qui a fait un petit saignement au niveau d'un angiome caverneux. On est à la limite entre la lésion qui occupe l'espace et la pathologie vasculaire. Deuxième territoire, et je terminerai là-dessus, c'est la moelle. Et la moelle va donner, on va voir des douleurs centrales. D'une part, chez les patients qui ont, enfin, il y a deux grandes catégories. Il y a les patients qui ont eu un traumatisme de la moelle, les paraplégiques et les tétraplégiques, post-traumatiques. Et puis, les patients qui ont une pathologie médicale de la moelle, c'est essentiellement les myélites. 99% c'est des myélites inflammatoires, 1% myélite infectieuse. Et parmi ces myélites inflammatoires, 60% c'est la sclérose en plaques. Donc, ce sont ces deux pathologies, traumatisme et myélite, qui vont dominer. On peut avoir des tumeurs, on peut avoir des problèmes plus rares, comme les syringomyélies. On voit plus tellement le tabès et les lésions post-tordotomie. Pour mémoire, le tabès, hein, c'était la syphilis de la moelle. Ça donne des douleurs absolument fulgurantes, douleurs qu'on appelait cordonales. Ces gens ont atteint des cordons postérieurs de la moelle. C'est des douleurs vraiment qui foudroient les patients, mais on en voit très très peu des vieux tabétites qui restent. La syringomyélie, c'est une cavité au milieu de la moelle. Donc les fibres nociceptives ne peuvent plus croiser. Et donc, il peut y avoir des douleurs dans le territoire suspendu, là où il y a les troubles de la sensibilité. Donc parfois c'est post-traumatique. Donc les deux grandes causes, c'est le traumatisme et les myélites. Donc le traumatisme, là aussi il peut y avoir un intervalle libre. Au début, il peut y avoir des douleurs d'autres origines, hein, les douleurs osseuses dues au traumatisme. La douleur, elle peut être dans deux territoires, au niveau de la lésion, donc radiculaire, et dont on est mi-ceinture généralement, et puis sous-lésionnel, et suivant la sévérité du déficit sensitif, eh bien, ces douleurs seront plus ou moins faciles à repérer. Ça peut être des douleurs typiques, neuropathiques, ou ça peut être des crampes, ça peut être des douleurs plus sourdes, plus difficiles à repérer. Les myélites, donc, en dehors des rares myélites virales et infectieuses, des très rares myélites des maladies de système, le plus souvent, il s'agit des myélites qu'on voit dans les scléroses en plaques, et chez les patients qui font une myélite qui ressemble à la sclérose en plaques, mais qui ne vont pas développer une sclérose en plaques, qu'on appelle les syndromes déminisants isolés. Là, c'est une image d'une myélite virale. Vous voyez une myélite à entérovirus avec un hypersignal très étendu. Alors que dans la sclérose en plaques, les myélites sont très limitées. C'est des myélites sur un seul étage et qui touchent partiellement la moelle. Donc elles sont essentiellement sensitives et elles s'accompagnent fréquemment de douleurs à type de brûlure, d'allodynie et de paresthésie, soit au moment de l'épisode myélitique, c'est la douleur de la poussée, qui est souvent améliorée par les corticoïdes, soit on peut avoir des douleurs d'autre nature dans la sclérose en plaques, notamment les douleurs neuropathiques continues, qui sont des douleurs qui peuvent s'installer à la suite d'une poussée, ou chez les patients qui vont avoir ça petit à petit, ça s'installe comme ça, progressivement, et c'est celles-là qui sont les plus dures. Dans la SEP, on peut avoir d'autres douleurs, il peut y avoir des névralgies, des crises toniques, des douleurs liées à la spasticité, des douleurs liées au traitement. Mais les plus embêtantes, ce sont les douleurs neuropathiques continues, qui représentent plus de la moitié des douleurs observées chez les patients atteints de sclérose en plaques. Donc elles ne sont pas soulagées par les corticoïdes et elles relèvent des traitements des douleurs neuropathiques dont va vous parler Virginie Doucet. En conclusion, les douleurs centrales sont des douleurs souvent sévères. Ça fait partie des douleurs pour lesquelles les traitements sont les plus difficiles. Parfois, c'est multifactoriel. Il faut savoir, par exemple, après un AVC, différencier ce qui est lié à l'atteinte neuropathique, ce qui est lié aux problèmes méthanites, rhumatologiques et autres. Ce sont des douleurs chroniques, donc il faut proposer à ces patients une évaluation un peu globale. Les facteurs sociaux, psychologiques contribuent à l'expression de ces douleurs. Il y a donc une prise en charge un peu globale qui comprend une prise en charge spécifique dont vous parlera Virginie et parfois de neurochirurgie et souvent médicamenteuse. Voilà, je vous remercie.
Bonjour, merci. Donc moi je vais vous parler de l'aspect donc des douleurs périphériques en essayant, et ce qui est difficile, d'éviter le piège de la liste tiroir, parce que c'est vrai en pathologie périphérique les douleurs sont très fréquentes et donc quasiment, pas toutes, mais un grand nombre de pathologies périphériques s'expriment au moins initialement ou au cours de leur évolution par des douleurs qui sont par définition douleurs neurogènes. Alors le problème c'est que effectivement, comme je vous le disais, c'est de nombreuses pathologies périphériques sont douloureuses et que on l'a vu d'un point de vue physiopathologique, ça veut dire que un certain type de fibres sont touchées. Ça veut dire les fibres qui sont celles qui transmettent la douleur, à savoir les petites fibres. Marc Landry vous en a parlé de façon un petit peu extensive. Un problème qu'on a en pathologie périphérique, c'est qu'on a un spectre, finalement, qui est un spectre assez large, en particulier un spectre de gravité, puisqu'on a des neuropathies, et j'en parlerai rapidement, qu'on dit à petites fibres, qui sont parfois d'ailleurs sous-diagnostiquées et qui sont, pour un certain nombre de cas, idiopathique et relativement bénigne, et qui justifie juste une surveillance et un traitement. Mais à côté de ça, on a des neuropathies douloureuses qui sont le témoin d'affections graves et parfois d'affections malignes. Et toute la difficulté, bien sûr, devant la douleur est d'une part de repérer le côté périphérique, c'est-à-dire de situer le problème sur le plan périphérique et ensuite d'essayer, bien sûr, de ne pas passer à côté d'une pathologie grave et sévère. Je vais donc d'abord vous parler, excusez-moi, je vais rappeler certaines choses sur le diagnostic d'une atteinte périphérique, non pas parce que je pense que vous ne savez pas comment reconnaître une pathologie périphérique, mais pour insister sur un point particulier qui est l'aspect topographique, et c'est le deuxième point, qui est un élément absolument fondamental qui va vous permettre vraiment de vous guider, non seulement dans le diagnostic, c'est-à-dire de vous dire oui, effectivement là, on est probablement dans un cadre où les nerfs périphériques sont atteints, mais aussi certainement pour vous en donner la cause, car lorsqu'on arrive à classer selon différentes formes topographiques, on a sous chaque forme topographique des étiologies qui sont des grandes étiologies et qui vous permettent effectivement rapidement de savoir dans quel domaine et dans quelles étiologies on se trouve. Bien sûr, après, il y a une exploration et bien sûr un diagnostic étiologique et un traitement dont vous parlera Virginie Doucet. Reconnaître une atteinte périphérique, c'est assez facile. Il y a trois éléments essentiels. C'est bien sûr un symptôme, qui peut être un symptôme moteur, sensitif, en particulier douloureux, mais aussi, ce qui est un peu une caractéristique particulière de la atteinte périphérique, c'est l'atteinte végétative, trophique, ces pieds qui sont particuliers, hein, je parle des pieds en particulier, qui cicatrisent mal, qui ont une dermite particulière, avec parfois des maux perforants. Donc cet aspect trophique, et puis végétative, avec une hypotension orthostatique, avec des gastroparésies, avec des dysfonctions rectiles ou des dysfonctions génitales, et qui sont des éléments un peu particuliers qu'on voit très spécifiquement, ou en tout cas très fréquemment dans les pathologies périphériques. Le deuxième élément qui doit faire évoquer une pathologie périphérique, c'est la topographie. Et ça, je reviendrai dessus pour vous donner les grandes catégories. Bien sûr, ce sont des catégories un peu, évidemment, artificielles. En médecine, on a toujours des cas qui se glissent entre les mailles du filet. Mais globalement, si vous arrivez à ranger votre patient dans une de ces grandes catégories, vous verrez que vous aurez fait un pas significatif dans l'étiologie et en particulier dans le problème qui se pose, qui est: est-ce que je suis en face d'une neuropathie qui a un potentiel évolutif et qui témoigne d'une pathologie grave, potentiellement maligne, ou est-ce que je suis dans une pathologie qui est plutôt bénigne, même si le handicap douloureux est important. Et évidemment, les réflexes qui, vous le savez, est l'élément déterminant pour distinguer le central du périphérique. Donc, un peu drapeau rouge, c'est-à-dire vraiment la triade, un symptôme moteur, sensitif, douloureux, végétatif, dans un territoire de projection qui est un territoire particulier, avec des réflexes abolis, doit vous faire instantanément penser à une pathologie potentiellement périphérique. Alors sur le plan, une fois que vous avez donné ça, il est très important d'évaluer le contexte dans lequel vous vous trouvez. Contexte d'une maladie héréditaire, d'une maladie qui est connue. Je parle bien sûr d'une maladie par exemple métabolique, un patient qui a un diabète, il est évident que c'est un contexte qu'il faut connaître. Toxique, une intoxication alcoolique, iatrogène, il faut y penser évidemment sur le plan médicamenteux, intoxication plus rare, un contexte auto-immun qui est connu, maladie de système, ou infectieuse, que ce soit par différents virus, HIV ou hépatite C. Et puis bien sûr un contexte néoplasique qui est parfois découvert par une neuropathie. Donc le contexte est un élément important. Alors sur le plan de la topographie, très rapidement, je vous ai mis ici un peu les sept syndromes qui sont les éléments essentiels. Vous pouvez, on pourra en oublier certains, mais enfin, globalement, si vous arrivez devant votre patient à dire où se trouve votre patient dans ces catégories, vous avez quasiment l'étiologie, parce que chacun de ces syndromes correspond quasiment à des étiologies qui sont quasiment évidentes. Le premier ici, c'est ce qu'on appelle les mononeuropathies, c'est-à-dire des atteintes qui sont un seul nerf. Évidemment, ce sont souvent des atteintes douloureuses et ce sont, par exemple, le cas typique, c'est le syndrome du canal carpien ou aussi la sciatique, qui est une atteinte pas d'un nerf, mais d'une racine. Et évidemment, ça, c'est toujours une compression qui, dans ce cas-là, est une compression dans un défilé anatomique, c'est-à-dire un endroit où le nerf est potentiellement lésé par sa situation anatomique particulière. On comprend ça au canal carpien, on comprend ça au cubital, au coude, ou aussi au niveau de la sciatique où il est comprimé dans son, au niveau du canal rachidien. Le deuxième élément, c'est la plexopathie, l'atteinte du plexus. Très difficile sur le plan sémiologique parce que le plexus, évidemment, c'est une anatomie compliquée. Ça, avant d'être des troncs définis comme étant le tronc médian, le tronc ulnaire ou le tronc radial, et vous savez que le plexus est avant divisé en tronc primaire, tronc secondaire. Et donc, les atteintes plexiques sont souvent un peu mixtes, c'est-à-dire ont un petit peu de radial, un petit peu de médian. Donc, c'est souvent des atteintes qui sont difficiles. Par contre, elles s'expriment très volontiers sous la forme de douleurs, et qui sont souvent sévères. Et c'est vrai que les atteintes plexiques, en dehors bien sûr des éléments évidents sur le plan étiologique, comme par exemple un traumatisme du plexus, Il faut toujours s'en méfier beaucoup. D'une part parce que on peut avoir des infiltrations tumorales, et ça c'est des choses qui sont importantes. Infiltration parfois par une tumeur de l'apex, parfois quelque chose vraiment d'infiltratif comme des lymphomes. Ou bien la deuxième étiologie, ce sont bien sûr des plexopathies auto-immunes comme le syndrome de Parsonage et Turner, que l'on reconnaît et qui est bien sûr source d'une douleur assez violente, avec la séquence sémiologique très particulière d'une douleur initiale très importante de l'épaule, suivie d'un déficit de l'épaule, de différents muscles, et en troisième partie survient une amyotrophie. Donc cette triade qui est assez caractéristique, bien sûr qui est un petit peu, je dirais, on a une grande variabilité dans ce syndrome Parsonage Turner, mais disons, c'est caricatural, mais on le retrouve souvent quand même, cette douleur. J'insiste sur le Parsonage Turner parce que ce sont souvent des patients nous, en neurologue, on voit souvent après un parcours un peu long, parce qu'on a une douleur de l'épaule, parfois déclenchée par un élément traumatique minime. Mais bien sûr, alors on recherche forcément une lésion osseuse, une lésion articulaire, avant de penser à ce syndrome qui est un syndrome inflammatoire auto-immun. Bref, tout ça pour vous dire que les atteintes plexiques, il faut s'en méfier, il faut les explorer, et elles sont très souvent douloureuses et parfois des douleurs réfractaires. Les mononeuropathies multiples, c'est un petit peu comme les mononeuropathies, sauf que il y a plusieurs nerfs qui sont impliqués, premièrement, et que deuxièmement, ce sont des atteintes qui ne sont pas dans des défilés dans lesquels les nerfs peuvent être un petit peu coincés anatomiquement. Donc ce sont généralement des atteintes qui correspondent à des atteintes auto-immunes. L'exemple type, c'est bien sûr les mononeuropathies multiples, des vascularites. On en reparlera, les vascularites typiques, PAN, Schwarzstrauss, maladie de Wegener. Toutes ces pathologies qui sont des pathologies auto-immunes et qui peuvent entraîner des douleurs tronculaires, mais multiples, et qui sont souvent douloureuses et déficitaires. Donc ça, c'est les trois éléments qui sont des éléments plutôt entraînant des syndromes focaux. Dans les éléments diffus, il y a bien sûr la polyneuropathie, qui est définie topographiquement comme une atteinte bilatérale, symétrique, mais plus important encore, longueur dépendante. Donc ça veut dire que les pieds sont touchés avant les membres supérieurs. Et ça, bien sûr, c'est typiquement des atteintes métaboliques comme le diabète ou les neuropathies toxiques qui sont volontiers, on le verra aussi, douloureuses. Les polyradiculonévrites, on ne peut pas dire que ce soit des pathologies qui sont forcément douloureuses, bien que dans le Guillain-Barré en particulier, on peut avoir des douleurs initiales qui sont dorsales. Et les deux dernières catégories, c'est la neuronopathie, et qui est une atteinte très importante à reconnaître parce que c'est une atteinte des ganglions de la racine dorsale. Et ces neuronopathies correspondent quasiment à deux étiologies qui sont, qui regroupent 95% des étiologies, qui sont d'une part des neuronopathies paranéoplasiques, donc bien sûr il faut pouvoir les reconnaître. Ce sont des atteintes qui sont exclusivement sensitives, qui touchent toutes les modalités sensorielles, et aussi bien les membres supérieurs que les membres inférieurs. Il n'y a aucune atteinte motrice. Et la deuxième étiologie, ce sont des étiologies auto-immunes, et qui sont bien sûr importantes, et qui sont très souvent les neuronopathies génératrices de douleurs relativement intenses. La dernière catégorie, vous pouvez un petit peu l'oublier dans ce cadre-là, puisque c'est les cordes antérieures qui, par définition, sont motrices pures. Alors après, la sémiologie douloureuse, je ne vais pas y revenir, puisque Bruno Boucher vous en a parlé. Il n'y a pas vraiment de caractéristiques très particulières. On retrouve effectivement l'allodynie, l'hyperesthésie. On retrouve toutes ces caractéristiques qui font les douleurs neurogènes. Ce qui fait la spécificité périphérique, c'est en orange en bas, c'est la topographie. C'est-à-dire que vraiment, la topographie qui correspond à un territoire de projection tronculaire, radiculaire, à un nerf en particulier, c'est ça qui va vous indiquer qu'il y a une souffrance périphérique. Alors le diagnostic étiologie passe par, vous savez, différentes choses. Ça c'est plutôt rien de spécifique aux neuropathies spécifiquement douloureuses. C'est un bilan qui passe forcément par l'électromyographie et un bilan biologique qui doit bien sûr balayer un petit peu l'ensemble des étiologies. Pour les neuropathies qui sont prédominantes sur les petites fibres et qui parfois n'ont pas beaucoup d'atteintes sur les fibres de plus gros diamètre, c'est-à-dire des patients qui ont des douleurs exclusives alors qu'elles ont un examen de la sensibilité un petit peu normale, c'est un petit peu plus difficile à explorer, ça nécessite parfois des explorations un peu plus spécialisées en électromyogramme comme le réflexe cutané sympathique ou le réflexe R3, car évidemment les petites fibres ne sont pas accessibles à l'EMG standard. Je passe un petit peu à ça. On peut utiliser aussi, c'est malheureusement pas disponible sur Bordeaux, mais ça peut l'être dans d'autres CHU, en particulier sur Limoges, les biopsies cutanées qui permettent de mesurer le nombre de fibres amyléniques ou de petites fibres à delta et C dans la biopsie cutanée sont des apports souvent importants et intéressants dans le diagnostic de ces neuropathies qui touchent exclusivement les petites fibres. Alors les grandes étiologies, moi je crois que, bon, je vais bien sûr, on va passer un peu sur les grandes causes, mais je crois que tout ce que j'ai dit avant, c'est vraiment ce qui est peut-être, à mon sens, le plus important, parce que vous savez que, évidemment, le diabète peut entraîner des neuropathies douloureuses, mais globalement, il me semble plus important que vous reconnaissiez ces grands syndromes topographiques, parce que à chacun de ces syndromes topographiques correspond des étiologies. Les mononeuropathies, c'est souvent des atteintes compressives dans des défilés. Les plexopathies, c'est bien sûr, en dehors du contexte traumatique, attention aux infiltrations tumorales et puis bien sûr le personnage Turner. Dans les mononeuropathies multiples, ce sont les vascularites. Ensuite, dans les atteintes qui sont plus polyneuropathiques, c'est toutes les atteintes métaboliques, on y reviendra, le diabète, les carences, l'alcoolisme, etc. Et dans les atteintes polyradiculonévrites, enfin disons les Guillain-Barré et polyradiculonévrites chroniques, il y a des douleurs, mais qui n'ont rien de spécifique, qui sont pas forcément au premier plan du tableau. Et puis les neuronopathies qu'il faut connaître, parce qu'elles peuvent témoigner soit d'un cancer parfois qui n'est pas encore connu, parfois trop petit pour être détecté, soit d'une maladie auto-immune. Donc là, je vais passer en revue un certain nombre d'étiologies, mais déjà, je pense que si vous si vous pouvez, chez un patient, 1, reconnaître l'origine périphérique, 2, la classer dans ces grandes catégories, vous avez déjà fait 80% du chemin. Le reste, en ce qui concerne l'étiologie, évidemment, ça peut être plus spécialisé par effectivement l'électromyogramme et des bilans biologiques que vous pouvez effectivement commencer, initier, et qui peuvent être faits ensuite en milieu plus spécialisé. Alors la neuropathie diabétique, on la connaît. Sachez que le diabète, c'est un peu la bête noire de la neuropathie périphérique, parce que le diabète, bien sûr, il entraîne des neuropathies. Une neuropathie qui est une polyneuropathie, c'est-à-dire qui est classiquement bilatérale, symétrique, synchrone, mais que le diabète est un grand stimulateur qui peut entraîner tous les types de neuropathies possibles. Il est capable d'entraîner des mononeuropathies multiples. On voit plus de polyradiculonévrites chez les diabétiques. Il peut entraîner des neuronopathies. Donc, de parti pris, le diabète est toujours à rechercher devant une neuropathie qui, en particulier, a ce côté un peu sensitif, douloureux, car dans les neuropathies diabétiques, il y a, certains cas, c'est quand même en général des neuropathies qui sont à prédominance sensitive et à prédominance douloureuse. Un petit mot sur l'intolérance au glucose qui est quand même reconnue maintenant, il y a des papiers, il y a une littérature abondante sur le fait que l'intolérance au glucose est une source de neuropathie périphérique sensitive et parfois douloureuse. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important à connaître. Et c'est pas forcément après 20 ans d'évolution, même si c'est effectivement la neuropathie la plus classique, l'intolérance au glucose peut générer des neuropathies douloureuses gênantes. D'une façon générale, ça, d'après les recommandations, c'est que le dépistage d'atteintes périphériques, c'est-à-dire au moins un électromyogramme par an, est recommandé par ces conférences de consensus chez les patients qui sont diabétiques. Alors évidemment, la forme la plus fréquente, c'est la polyneuropathie distale, symétrique, longueur dépendante, classique, mixte, mais qui est quand même très nettement à prédominance sensitive. Un patient qui vient après 20 ans de diabète, 15 ans de diabète, qui a des douleurs au niveau des membres inférieurs, des brûlures, des paresthésies, des diesthésies, c'est plus de 50% après 20 ans d'évolution. Et c'est d'autant plus sévère, bien sûr, qu'on a des diabètes mal équilibrés. Attention aussi, parce que ces patients ont très souvent des troubles trophiques au niveau des membres inférieurs qui sont souvent associés et qui posent d'importants problèmes. Et la dysautonomie est également aussi fréquente. Les formes cliniques, à savoir le syndrome de Garland, qui est une amyotrophie douloureuse quadricipitale, ou du psoas, avec un déficit, mais qui peut être douloureux, et la méralgie paresthésique, qui est finalement plus une mononeuropathie du fémoral cutané, par compression, avec une douleur sur la face externe de la cuisse, souvent paresthésique, et qui est liée, bien sûr, au diabète, à la fragilité, mais surtout, parfois, au diabète ou l'apport de ceinture. Donc, c'est vraiment une compression plus classique, comme l'est le canal carpien. Les neuropathies qui sont liées aux connectivites, là, je parle plutôt de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus et du Goujon-Sjögren. C'est une des polyneuropathies qui sont souvent... donc, ce sont des atteintes qui sont plutôt des polyneuropathies, plus rarement des mononeuropathies multiples, comme le cas des vascularites. Ce sont des neuropathies qui sont souvent sensitives et douloureuses, souvent ataxiantes avec un élément de déséquilibre, un peu plus rarement motrices, et qui sont alors soit liées à un contexte connu de connectivite, des gens qui ont déjà une polyarthrite rhumatoïde connue et qui déclarent une neuropathie, mais parfois qui peuvent être le mode de découverte dans 20% des cas. Donc effectivement, ça nécessite forcément des bilans à la recherche de facteurs rhumatoïdes, etc., et d'un bilan auto-immun complet, et éventuellement de biopsie des glandes salivaires ou neuromusculaires pour faire la preuve d'une atteinte de type de connectivite. Les vascularites, ce sont essentiellement les vascularites nécrosantes, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner des véritables infarctus du nerf périphérique, avec un tableau qui est souvent brutal, douloureux, déficitaire, dans un territoire nerveux qui peut éventuellement se répéter. Sachez que ce tableau qui est classique dans les neuropathies, dans les vascularites nécrosantes, il y a quand même dans 20% des cas des tableaux qui sont vraiment des atteintes de type polyneuropathie, c'est-à-dire indissociables finalement des neuropathies diabétiques avec des atteintes un peu chroniques, distales, symétriques, des membres inférieurs, et donc on n'a pas toujours l'aspect classique de la mononeuropathie avec cet infarctus classique. Là aussi, les vascularites, s'il y a un contexte auto-immun, ou si dans votre bilan, vous avez effectivement des encas positifs ou des éléments qui vous orientent vers une atteinte auto-immune, effectivement, là, il faut, je pense, un bilan assez complet. En particulier, il faut une preuve biopsique, en général, qui peut être la biopsie neuromusculaire. Les neuropathies qui sont liées aux gammapathies monoclonales, comme vous le savez, dans le bilan d'une neuropathie périphérique, il faut faire une immunoélectrophorèse pour chercher des pics au niveau des immunoglobulines. D'abord, si on a un pic, il faut s'assurer que ce pic n'est pas le témoin d'une atteinte maligne. Et donc, en général, il faut faire un bilan avec une biopsie ostéomédulaire, un scanner thoraco-abdominopelvien. Évidemment, on a en tête des maladies effectivement sévères comme le lymphome, la leucémie myéloïde chronique, le myélome, Mayo-Hodgkin ou la maladie de Waldenström. Et si on est assuré qu'on est dans le cadre des gammapathies dites de signification indéterminée, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de pathologie maligne derrière, eh bien on a en fait deux cas. On a d'une part les pics qui sont à IgM. Dans ces cas-là, il faut rechercher s'il y a une activité qu'on appelle anti-MAG, qui est une atteinte qui reflète une atteinte spécifiquement dirigée contre la myéline. Et ce sont des neuropathies qui sont finalement des variantes des polyradiculonévrites, mais qui sont très souvent des neuropathies déminisantes distales, avec un côté sensitif et douloureux distal, souvent au membre supérieur, parfois un petit tremblement d'attitude, et qui sont souvent des neuropathies qui sont lentement évolutives et avec une atteinte motrice qui est souvent très modérée, donc vraiment à prédominance sensitive et douloureuse. Je passe sur d'autres neuropathies qui sont non pas liées à des anti-MAG, mais à des antisulfatides, mais en tout cas, ça revient un petit peu au même sur le plan diagnostique. Les IgA ou IgG, si vous avez des pics qui sont de signification indéterminée et qui sont à IgG, c'est des situations plus difficiles qui souvent nécessitent un avis d'expertise parce que c'est très difficile parfois de faire le lien entre être sûr que la neuropathie est liée au pic de monoclonal IgG ou IgA. Autant dans les IgM et en particulier dans les IgM anti-MAG, c'est une évidence, on a beaucoup d'arguments. Dans les IgG ou IgA, c'est plus difficile et généralement, il faut passer parfois par une biopsie avec la recherche, un marquage pour voir si on a une précipitation de ces immunoglobulines dans les gaines de myéline. J'en ai profité pour mettre ici les cryoglobulines, donc il existe plusieurs types. mais évidemment la plus fréquente, c'est celles qui sont soit liées aux gammapathies IgM, soit le type 2 qui sont liées à des affections au VHC ou au Epstein-Barr. Les neuropathies paranéoplasiques, c'est typiquement le cas des neuropathies très douloureuses. C'est un tableau de neuronopathie, donc vraiment une atteinte des ganglions, qui est une atteinte auto-immune. C'est le syndrome de Denis Brand, troubles sensitifs très importants aux membres supérieurs et membres inférieurs, assez évolutifs, dans un contexte évidemment souvent qui évoque une malignité quelque part, c'est-à-dire altération intergénérale, tabagisme, exposition professionnelle. Là, il faut faire effectivement un bilan d'une part auto-immun, avec des recherches d'anticorps antineuronaux. Les antineuronaux, généralement, on demande un panel, sans préciser, parce qu'il y a des panels de référence, on demande recherche d'anticorps antineuronaux, mais bien évidemment, on peut aller plus loin en demandant la spécificité à chaque antineuronaux correspond à certains types de cancers plus fréquents. Généralement, il faut faire, bien sûr, des recherches assez extensives et répétées parfois d'un possible néoprimitif avec des scans thoraco-abdominales et éventuellement des scans à émission de positrons, scans TEP, qui apportaient beaucoup et qui sont maintenant disponibles en montrant une hyperfixation parfois d'un ganglion ou parfois en montrant une tumeur qui est d'une petite taille mais qui fixe fortement et qui montre effectivement un hypermétabolisme. J'ai marqué les neuropathies post-radiques, qui sont des plexopathies après radiation, mais qui sont dans un contexte assez particulier. La neuropathie amyloïde familiale, ça c'est un petit peu plus rare, mais il faut y penser. C'est des neuropathies qui sont par définition très douloureuses, avec des troubles sensitifs. Il y a une origine portugaise pour le type 1 qui est le plus général. C'est des patients qui ont des troubles sensitifs, évolutifs, étendus, avec une marche ataxique, des troubles végétatifs importants. Et il faut rechercher une mutation sur le gène de la transthyrétine. Dans le type le plus fréquent, c'est une transmission autosomique dominante, mais il y a de très nombreux types. Là aussi, souvent, c'est la biopsie qui fait le diagnostic ou la biologie moléculaire. Il y a aussi des neuropathies amyloïdes acquises qui sont liées effectivement à des dysglobulinémies. Là aussi, la biopsie est importante pour rechercher l'amylose primitive. Les neuropathies héréditaires, faut y penser. Certaines sont douloureuses. Parfois, des gens ont par exemple, des maladies de Charcot-Marie et qui, à partir de 50 ans ou 30 ans, ou, enfin entre 30 et 50 ans, parfois assez tardivement, je veux dire, se plaignent de brûlures. Bon, évidemment, on va rechercher des pieds creux ou un contexte génétique familial. Bon. Il y a d'autres neuropathies qui ont un contexte familial. Les acropathies séromutilantes dans lesquelles il y a beaucoup de qui soit neuropathie assez rare. La maladie de Fabry, qui est assez rare, donc là je crois que bon, pas nécessaire de vraiment de rentrer dans le vif du sujet, d'autant que la clinique est assez complexe. Une neuropathie toxique, ça peut être un élément important parce qu'on est toujours se poser la question de savoir si un médicament peut être neurotoxique. Il y a des médicaments qui sont connus pour être neurotoxiques, des anti-infectieux. Évidemment, toutes les chimiothérapies sont souvent, bien sûr, très souvent, entraînent des neuropathies sensitives douloureuses. Et puis, maintenant, beaucoup de médicaments qui sont un petit peu nouveaux, dont on découvre la neurotoxicité, les antirétroviraux, la cordarone, ça c'est pas un médicament nouveau, on sait, mais on connaît, bien sûr, que c'est une substance qui est neurotoxique, avec une caractéristique très reconnaissable, avec une déminisation particulière, avec, si on fait la biopsie, là aussi des inclusions qui sont assez particulières. Parfois, on demande effectivement à ce que, au cardiologue, si on peut supprimer cette cordarone qui est parfois mise depuis longtemps. Et puis, des médicaments qui sont plus récents, comme les anti-TNF-alpha, les interférons ou la thalidomide, pour lesquels classiquement on fait des EMG quasiment avant toute mise sous chimiothérapie. De façon générale, il faut rechercher devant une neuropathie sensitive qui apparaît après l'introduction d'un médicament la possibilité, ou au moins évoquer la possibilité d'une origine toxique, médicamenteuse. Je passe sur les neuropathies toxiques professionnelles ou accidentelles, le contexte va vous les donner. Les neuropathies infectieuses, bien sûr j'ai parlé de la cryoglobulinémie et de l'infection à l'hépatite. HIV, on avait avant bien sûr les antirétroviraux au stade de sida, des atteintes qui étaient très sévèrement douloureuses avec l'atteinte axonale qui était subaiguë, qui était le syndrome infiltratif aigu qu'on voit quasiment plus. Maintenant, ce qu'on voit plus davantage, c'est des neuropathies qui sont liées au traitement antirétroviraux. Sachez que ça existe, c'est-à-dire que ça peut nécessiter le changement de traitement pour des traitements un petit peu moins neurotoxiques. La lèpre, bon, je la cite parce que c'est quand même la première cause de neuropathie dans le monde, il faut quand même le savoir. Et dans la forme en particulier tuberculoïde, il y a une anesthésie douloureuse, mais avec souvent des phénomènes douloureux, d'hyperpathie qui sont importantes. Les borrélioses, la maladie de Lyme, qui donne plutôt des méningoradiculites et qui sont douloureuses, mais pas plus finalement que les polyradiconévrites. Alors il existe enfin, pour finir, une neuropathie authentiquement, strictement à petites fibres, qui est une cause assez fréquente d'une neuropathie sensorielle, qui est assez frustrante parce que finalement l'examen est normal, les gens ont mal aux jambes, ont des douleurs, mais gardent leurs réflexes, les EMG sont normaux, et puis on n'a aucun symptôme moteur. Ce sont souvent des adultes qui sont dans la cinquième ou sixième décade, une évolution qui est souvent assez lente, le pronostic est pas trop mauvais, en sens qu'il n'y a pas une évolutivité importante. Le diagnostic est difficile, souvent d'exclusion, sauf si on peut faire des biopsies pour vraiment mesurer le taux, la quantité de fibres qui existe. En tout cas, c'est un élément qu'il faut connaître. Et puis j'ai mis, pour finir, bien sûr, d'autres neuropathies qui sont l'insuffisance rénale dans les formes évoluées, qui sont souvent douloureuses, qui sont souvent non améliorées par la dialyse et qui sont finalement uniquement améliorées par la transplantation, la maladie cœliaque ou la sarcoïdose. En conclusion, je voudrais dire que la neuropathie entraîne très souvent des douleurs neurogènes. C'est un symptôme, bien sûr, extrêmement fréquent des neuropathies périphériques, souvent des brûlures au niveau des jambes et au niveau des pieds. Que le diagnostic étiologique passe par une analyse sémiologique rigoureuse et un bilan complet, et surtout une analyse topographique, j'insiste encore sur l'aspect topographique, et tout l'enjeu, bien sûr, c'est que certaines étiologies sont sévères, parfois malignes et graves, alors que d'autres sont bénignes, et c'est là, bien sûr, qu'il faut pouvoir faire la différence, c'est important pour les patients. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, brièvement, je vais vous parler aujourd'hui des traitements symptomatiques des douleurs neuropathiques. Je vais vous citer finalement toutes les armes qu'on a dans notre arsenal pour prendre en charge ces douleurs, mais j'insisterai toujours aussi pour vous dire combien c'est important, même si on a un arsenal thérapeutique, de tenir compte des attentes des patients. Alors donc, les objectifs aujourd'hui, en tout cas les deux questions auxquelles je vais essayer de répondre, quel est l'arsenal thérapeutique dont on dispose actuellement, et est-on capable, en 2011, de vous parler d'une hiérarchisation, c'est-à-dire peut-on vous dire actuellement, chez un patient qui a des douleurs neuropathiques, vous devez commencer par ceci ou vous devez commencer par cela? Alors, en termes d'introduction, je voudrais simplement vous rappeler trois phrases qui m'ont semblé fondamentales de rappeler ici. Première phrase qui est la définition des douleurs neuropathiques. Pourquoi je vous la rappelle aujourd'hui? Parce que cette définition a changé. Et c'est important de noter qu'elle a changé parce qu'elle a le mérite, enfin, de rappeler que les syndromes fibromyalgiques ne sont pas des douleurs neuropathiques. La définition est la suivante. Les douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs qui sont la conséquence directe d'une lésion ou d'une maladie du système nerveux. Donc ça fait bien comprendre que les syndromes fibromyalgiques ne sont pas des douleurs neuropathiques. Autre phrase en termes d'introduction, ce représente donc 35%, grosso modo un quart à un tiers des douleurs prises en charge dans les structures douleurs. Mais il est bon de rappeler aussi qu'elles sont très souvent mixtes et qu'il ne faudra donc pas se concentrer ou se contenter des moyens agissant sur les douleurs neuropathiques. Il faudra très souvent associer des traitements symptomatiques des douleurs neuropathiques et des traitements symptomatiques des douleurs nociceptives. Enfin, dernière phrase importante, actuellement encore, malgré les progrès des connaissances, malgré les efforts réalisés notamment en termes d'essais thérapeutiques, je rappelle ici que 2/3 des patients ne sont pas suffisamment soulagés par les traitements disponibles. Alors cet arsenal, on va essayer de l'éclaircir et de bien comprendre les différents moyens dont on dispose et comment on peut essayer de les associer. Voilà quel est cet arsenal en 2011. Donc vous voyez que nous avons des moyens pharmacologiques, mais que nous avons aussi des moyens non pharmacologiques, notamment des techniques de stimulation électrique, des traitements locaux et puis Bruno Brochet l'a rappelé tout à l'heure, des techniques neurochirurgicales. Alors j'ai rajouté sur cette diapositive, si tant est que ce soit parfois possible, d'essayer toujours de traiter la cause, mais Bruno Brochet et Gwendal Lemasson l'ont bien rappelé ici, malheureusement ce n'est pas souvent possible, et donc il va falloir pour de très nombreux patients bien connaître ces traitements symptomatiques, qui seront les seuls traitements qu'on pourra proposer à ces patients pour les soulager d'un handicap fonctionnel parfois très important. Alors commençons par les traitements pharmacologiques. Donc vous le savez, on dispose actuellement d'essais thérapeutiques qui malheureusement ont été concentrés sur deux types de douleurs neuropathiques, les douleurs neuropathiques du diabète et les douleurs neuropathiques post-ostériennes. Vous savez aussi que les étiologies les plus fréquentes de douleurs neuropathiques, ce ne sont pas celles-là, ce sont les radiculopathies chroniques et ce sont les douleurs neuropathiques post-chirurgicales. La chirurgie est très pourvoyeuse de douleurs neuropathiques. Donc à l'heure actuelle, en 2011, nous sommes encore obligés d'extrapoler les données qu'on a sur la douleur de la neuropathie diabétique, sur la douleur post-ostérienne, à tout un tas d'autres étiologies qui ne font peut-être pas intervenir les mêmes mécanismes physiopathologiques. Je vous rappelle aussi ici que c'est très important de choisir des molécules en fonction du meilleur rapport efficacité-sécurité d'emploi, et ce sera donc important de tenir compte des comorbidités présentes chez nos patients. Enfin, je vous rappelle que anti-inflammatoires, paracétamol, codéine ne sont pas efficaces dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Donc, ce que vous avez appris, plus ou moins récemment reste vrai. À l'heure actuelle, par voie orale, quatre classes se distinguent. Les antidépresseurs, les antiépileptiques, je les ai mis en gros et en rouge parce que ça reste les deux traitements pharmacologiques qui doivent être le plus souvent proposés. Et puis vous voyez en plus petit et en blanc le tramadol et le palier 3. Prenons le temps de détailler un peu. Finalement, qu'est-ce qui va guider au sein de cet arsenal pharmacologique votre choix? Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle qu'on est quand même aidé par certains arguments pour dire ben, chez ce patient je vais peut-être essayer plutôt cela en première intention ou plutôt telle ou telle molécule? Alors le choix il va être guidé avant tout par l'existence de pathologies associées, de maladies associées, et puis l'existence d'une comorbidité soit anxieuse, soit dépressive. Et vous choisirez plus volontiers des traitements pharmacologiques pour lesquels vous savez que la maladie, telle ou telle maladie présente chez ce patient n'est pas une contre-indication. Alors je vous donne un exemple très concret pour illustrer mon propos. On parlait de la neuropathie diabétique. Un patient diabétique qui est en surpoids, il est vraisemblable que dans un premier temps, vous choisirez des molécules, par exemple, qui ont moins de risques de faire prendre du poids. Et si on regarde notre arsenal pharmacologique, vous le savez, beaucoup de ces molécules ont la potentialité de faire grossir nos patients. Et s'il y en a une, peut-être parmi elles, qui font prendre moins de poids que les autres, c'est la duloxétine ou le Cymbalta. Donc ce n'est qu'un exemple, j'y reviendrai un peu plus tard. Autre argument sur lequel vous pourrez éventuellement baser votre choix, je vous l'ai dit, la comorbidité anxieuse dépressive et les troubles du sommeil. Si ce patient douloureux a une recrudescence de sa symptomatologie douloureuse vespérale ou nocturne, vous n'hésiterez pas bien sûr à choisir une molécule qui va améliorer son sommeil et qui va être un élément en soi susceptible aussi de participer au soulagement. Le tramadol n'a pas d'efficacité reconnue sur les comorbidités. Point d'interrogation pour le palier 3. Ça pourrait être un sujet de présentation en soi. Alors, les médicaments. Les médicaments, comment, par quel bout faut-il le prendre chez nos patients? Alors, les médicaments, il y a une partie qu'on ne peut pas contourner, qui est l'histoire, l'interrogatoire du patient sur les essais successifs, sur comment a-t-il essayé tous ces médicaments, à quelle posologie et pendant combien de temps, puisque vous savez que parfois des traitements sont abandonnés trop tôt en termes de durée d'utilisation, trop tôt en termes de posologie, et il faut absolument reprendre cet historique avec les patients. Bien faire préciser au patient pourquoi il a arrêté tel ou tel traitement. Est-ce qu'il s'agissait vraiment d'effets secondaires en lien avec telle ou telle molécule? Se rappeler de la problématique des interactions, j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis se demander aussi finalement si toutes les tentatives échouent pharmacologiques auprès d'un patient, si on n'a pas oublié quelque chose, si on n'est pas passé à côté de quelque chose, ou si finalement aussi on n'a pas pensé à évaluer d'autres problématiques qui interviennent et qui expliquent que ce patient résiste à de très nombreuses tentatives pharmacologiques. Enfin, et j'insiste et je le rappelle même si je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas prendre une décision thérapeutique à l'issue de la consultation sans avoir fait préciser au patient quelles sont ses préférences et quelles sont ses attentes par rapport à la prise en charge. Je crains de ne pas avoir le temps, donc j'avance. Les antiépileptiques, donc c'est cette première famille pharmacologique, les antiépileptiques anciens, les antiépileptiques plus récents. Alors, très clairement, pour être, je dirais, schématique et synthétique, le tégrétol ne le retenait plus, puisque la seule indication du tégrétol dans la douleur neuropathique, c'est la névralgie du trijumeau. Il n'est pas indiqué dans les autres douleurs neuropathiques. Le rivotril, vous le savez, n'est pas indiqué dans le traitement de la douleur neuropathique. Aucune donnée documentée de son efficacité. Risque important de dépendance. Dernière donnée de l'AFSAPS qui recommande bien que dans ce contexte de ne pas le prescrire, notamment de ne pas le prescrire au-delà de 12 semaines. Donc les antiépileptiques anciens, on a plutôt tendance à les écarter, même si je pourrais vous dire un mot de la dépakine pour laquelle restent encore certaines incertitudes. Alors les antiépileptiques récents, pour être là aussi très synthétique, on ne doit en retenir que deux pour la prise en charge des douleurs neuropathiques, le Neurontin, le Lyrica. Alors, y a-t-il des arguments pour dire à l'heure actuelle, je choisis plutôt le Neurontin, je choisis plutôt le Lyrica? Je dirais qu'il n'y a pas d'argument formel, je dirais qu'on ne peut pas comparer de façon dichotomique ces deux molécules. Si l'une d'entre elles n'a pas été essayée alors que l'autre l'a été, ça vaut le coup de la tenter, et inversement. On peut dire que le Lyrica agit peut-être un peu plus vite, on peut dire que le Lyrica peut être instauré peut-être un peu plus vite, on peut dire que le Lyrica, on peut l'administrer en deux prises, alors que le Neurontin, c'est le plus souvent en trois, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle de dire que l'une est supérieure à l'autre. Si le patient ne répond pas au Neurontin, vous essayerez le Lyrica et inversement. Les antidépresseurs. Donc vous allez voir là encore que des données anciennes restent vraies, puisque la famille au sein de la famille des antidépresseurs qu'on utilise de façon préférentielle, ça reste les tricycliques. Malgré la commercialisation de nombreuses nouvelles molécules antidépressives, les antidépresseurs tricycliques restent le traitement de référence des douleurs neuropathiques. Vous voyez qu'on a précisé sur cette diapositive qu'il y a au sein de la famille des antidépresseurs une autre famille qui est susceptible d'être efficace, même si elle l'est moins que les tricycliques. Ce sont les antidépresseurs mixtes qui inhibent la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. C'est la duloxétine, le Cymbalta, et la venlafaxine, l'Effexor. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans les douleurs neuropathiques. Ils sont beaucoup mieux tolérés que les tricycliques, mais ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans ce contexte. Il est important de rappeler les contre-indications des tricycliques auxquelles on ne pense peut-être pas suffisamment. On pense souvent à l'adénome prostatique, on pense souvent au glaucome, et on pense peut-être un peu moins souvent aux contre-indications cardiaques, les troubles du rythme, l'insuffisance cardiaque. Et puis rappelons-nous aussi que les antidépresseurs tricycliques diminuent le seuil épileptogène. Nous rappelons ici que les tricycliques ont une tolérance médiocre chez la personne âgée, chez laquelle elles augmentent le risque fracturaire. Et puis il y a quand même une augmentation du risque de mort soudaine par arythmie pour les posologies supérieures à 100 mg, qui sont encore à l'heure actuelle utilisées chez quelques-uns de nos patients. Une diapositive consacrée aux inhibiteurs mixtes de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Vous le savez, le Cymbalta a l'AMM dans les douleurs neuropathiques. Le Cymbalta, on commence à 30 mg le soir, on augmente à 60 mg. 60 mg est une posologie efficace et on peut, chez certains patients réfractaires, augmenter la posologie jusqu'à 120 mg par jour. Alors, ça ne fait pas prendre de poids et c'est intéressant. Mais c'est un médicament qui est susceptible de majorer une hypertension artérielle, donc il faut être prudent chez les patients hypertendus, et c'est un médicament qui est susceptible d'avoir une toxicité hépatique, donc il ne faut pas hésiter à contrôler le bilan hépatique si le patient présente des symptômes évocateurs. Alors le tramadol, peu de données documentées, même s'il y en a quelques-unes concernant son efficacité dans la douleur neuropathique, un médicament qui est parfois mal toléré, notamment en termes de nausées, notamment en termes de sédation et de sensations ébrieuses chez la personne âgée. Et je rappelle qu'il y a des interactions avec les antidépresseurs, notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, avec un risque notable de survenue d'un syndrome sérotoninergique. Le palier 3. Alors, le palier 3, c'est l'illustration de l'évolution des connaissances médicales, puisque j'ai appris que le palier 3 n'était pas efficace dans les douleurs neuropathiques, et vous voyez, maintenant, je discute le fait que le palier 3 est efficace dans les douleurs neuropathiques. Donc, c'est une donnée qui a été longtemps controversée. On dispose actuellement indéniablement d'essais thérapeutiques ayant prouvé leur efficacité dans ce contexte. Je rappelle bien sûr que ce ne sont pas des traitements de première intention dans le contexte des douleurs neuropathiques. Alors, on manque de recul pour la durée de l'efficacité, mais on manque de recul aussi sur d'autres éléments qui sont notamment la toxicité à long terme, ou plutôt effets secondaires à long terme, sur les fonctions cognitives, sur la fécondité, sur les fonctions immunitaires. Donc, c'est efficace, mais questionnement par rapport à l'efficacité à long terme. Alors, je cite l'oxycodone, je cite la morphine. Il y a quelques études à manier prudemment, jamais en première intention, bien sûr. Alors, j'avais inclus une diapositive avec des informations à préciser aux patients. Je ne sais pas si j'ai le temps. Oui. Bon, allez, je prends le temps, parce que c'est important. Donc, les antalgiques usuels sont peu ou pas efficaces dans les douleurs neuropathiques, ça je vous l'ai dit. Les molécules prescrites sont souvent utilisées dans d'autres indications, mais ont une activité antalgique propre, par exemple les antidépresseurs. Donc, expliquer au patient qu'on lui prescrit un antidépresseur, non pas forcément parce qu'il est déprimé, mais parce que cette classe médicamenteuse a une efficacité propre sur la douleur. Les traitements proposés ont souvent une efficacité partielle sur la douleur, donc bien préciser avec le patient les objectifs attendus. Et puis, il y a une précision sur laquelle je voudrais revenir parce que c'est vraiment très très important avec ces traitements pharmacologiques. Instaurer le traitement à la posologie la plus faible possible, par exemple 5 gouttes de Laroxyl pour les antidépresseurs tricycliques, par exemple 25 mg de Lyrica pour le Lyrica, par exemple 100 mg de Neurontin, et ne pas hésiter à augmenter extrêmement progressivement en expliquant aux patients que l'efficacité et la tolérance de ces médicaments sont extrêmement variables d'un patient à l'autre et qu'il faut impérativement adapter la posologie en fonction des individus. Dieu merci, dans notre arsenal, nous n'avons pas que des médicaments, nous avons aussi des traitements locaux, et vous avez entendu parler des emplâtres de Versatis qui sont maintenant disponibles en officine de ville, qu'on peut même proposer en première intention chez des patients qui ont des douleurs neuropathiques limitées en topographie, comme c'est souvent le cas dans les douleurs neuropathiques post-chirurgicales. Moyen thérapeutique qui amène un confort important pour le patient, c'est donc un emplâtre de 10 sur 14 qu'on applique au niveau de la région douloureuse. Effet de la lidocaïne en soi, effet protecteur du tissu de l'emplâtre lui-même, notamment quand les patients sont très allodyniques. Donc c'est vraiment un moyen thérapeutique intéressant pour les patients qui ont des douleurs neuropathiques limitées en topographie. 12 heures avec, 12 heures sans, maximum 3 emplâtres par 24 heures. Et puis, si vous avez des problèmes avec les organismes de sécurité sociale parce que vous faites des prescriptions hors AMM, ben vous avez la possibilité de leur rappeler qu'un consensus d'experts, notamment européens, mais aussi international, a bien précisé que les emplâtres de Versatis pouvaient tout à fait être proposés en première intention chez des patients qui ont des douleurs neuropathiques limitées en topographie. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire pour les médicaments ? Si possible, 2 monothérapies successives par antidépresseurs ou antiépileptiques. Je vous l'ai bien dit, choix guidé par les comorbidités. Essayez dans la mesure du possible d'agir non seulement sur la douleur, mais aussi sur les comorbidités associées. Si vous n'agissez pas sur ces comorbidités associées, c'est un frein à l'amélioration de la douleur de votre patient. si efficacité partielle, bithérapie. Alors là, j'ouvre simplement une parenthèse parce que c'est aussi l'illustration de l'évolution des connaissances médicales. On a beaucoup enseigné qu'il fallait prôner plutôt l'utilisation des monothérapies. On est en train de démontrer le contraire, puisque arrivent maintenant des essais thérapeutiques démontrant la supériorité de certaines associations pharmacologiques, telles que antidépresseurs plus antiépileptiques, antiépileptiques plus palier 3, antidépresseurs plus palier 3. Donc les connaissances sont en train de bouger et il est vraisemblable qu'il faudra adapter nos pratiques à nos connaissances. Et puis je terminerai par d'autres moyens thérapeutiques dans notre arsenal, les techniques de stimulation électrique, qui sont parfois très intéressantes chez ces patients ne supportant pas les traitements pharmacologiques ou ne voulant pas les accepter. Donc les techniques de stimulation électrique externe, mais aussi implantées chirurgicalement, stimulation épidurale, stimulation corticale. Ces techniques implantées chirurgicalement relèvent d'une prise en charge en centre spécialisé, relèvent d'une évaluation pluridisciplinaire avant mise en place de l'indication. Mais simplement, je souligne ces aspects-là parce que si vos patients résistent, sont réfractaires à de très nombreuses tentatives pharmacologiques, il ne faut pas considérer qu'ils sont, hors de tout espoir. Il faut les confier aux structures pour qu'on puisse leur proposer des techniques non pharmacologiques. Et puis aussi, je voudrais terminer par cette diapositive de moyens thérapeutiques non spécifiques aux mécanismes neuropathiques qui sont très importants dans le cadre de la chronicité douloureuse, surtout dans ce contexte de perte de confiance des patients vis-à-vis des traitements pharmacologiques. Je vous ai parlé de médicaments qui font partie de la liste de la SAPS pour lesquels les patients peuvent être inquiets en manque de confiance. Donc c'est important d'utiliser ces moyens non pharmacologiques pour lesquels on commence enfin aussi à voir apparaître des essais thérapeutiques de qualité versus des groupes contrôles. Donc on va certainement aussi améliorer nos données documentées sur l'efficacité de ces moyens non pharmacologiques. Psychothérapeutique, traitement des comorbidités anxieuses et ou dépressives. Kinésithérapie, qui intervient sur les facteurs mécaniques, musculaires, posturaux, etc. Réadaptatif, hypnose, et puis bien sûr la prise en charge des facteurs sociaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et une prise en charge globale pour ces patients.